Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Je suis confinée à Paris dans un appartement de 42 mètres carrés avec une colocataire.
C'est Julie Gerbet du podcast À Poil. Bienvenue dans la série Les Confineries qui raconte des histoires de chefs cloîtrés à la maison en temps de quarantaine. Qu'est-ce qu'ils ont dans leur frigo? Est-ce qu'ils cuisinent encore? Quel livre de recettes ils feuillettent? Tour à tour, les talents de la cuisine contemporaine répondent à mes interrogations futiles pour changer des news anxiogènes. Les confineries remplacent les épisodes habituels pendant la fermeture des restaurants, mais vous pouvez continuer à écouter tous ces épisodes en avant-première pendant 48 heures sur le site Elle à table, avant de les retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Cette semaine, Manon Fleury, l'ex-chef du Mermoz, s'exprime sur sa façon de vivre la cuisine à la maison et ses questionnements profonds sur le métier. Que t'as fait des réserves et de quoi quand t'as appris que le confinement allait avoir lieu?
Comme un peu tout chef qui se respecte, je crois que j'ai pas mal de trucs déjà dans mes placards, donc j'ai pas acheté beaucoup de choses supplémentaires. En fait, je revenais en plus d'un voyage en Asie et j'avais ramené une valise de 20 kilos, de la pâte de crevettes, des feuilles de riz séchées, des champignons séchés, j'avais déjà pas mal de choses. Mais j'ai racheté en supplément quand même quelques beaucoup de sauce tomate, parce que j'adore les pâtes à la sauce tomate, quelques pâtes, des céréales, parce que je mange aussi beaucoup de céréales, comme le petit épeautre ou des flocons d'avoine aussi, parce que je fais beaucoup de porridge au petit-déj. J'ai racheté des choses sèches comme ça, donc ouais, des graines de tournesol, des graines de courge, voilà, de quoi faire des petits-déj surtout.
Je trouve qu'on se rend compte de ce qu'on utilise tout le temps et ce qui nous est vraiment cher dans la cuisine en ces temps de confinement. Toi, c'est quoi?
Ouais, c'est assez drôle parce que y a cette fameuse sauce tomate et en fait, j'adore le tahini. Ça ne fait pas forcément tout le temps partie de ma cuisine, mais j'adore vraiment ça et j'ai une copine qui m'a ramené un pot juste avant le confinement qui m'a ramené du tahini et du za'atar d'Israël et qui sont super bons. Et en fait, là, depuis le début du confinement, j'en mets partout. C'est un peu addictif, donc je fais tout le temps des sauces en mettant toujours ma petite cuillère de pâte de sésame dedans. Donc, merci Vanessa, parce que ça égaye mon quotidien, quoi. Il y a aussi de la compote. J'achète de la compote en bocal parce que j'essaie de faire attention aux emballages, etc., de pas acheter des petits pots de compote qui multiplient les emballages. Donc, j'achète des grands bocaux de 1 kilo et en fait je m'en resserre pour mettre les éléments secs de mes placards.
T'en as d'autres ou...
La farine, parce que je me suis mise un peu à faire du pain. J'ai retrouvé des épices Shira comme d'habitude. J'avais un mélange d'épices à thé, c'était un thé de chai et en fait j'ai que ça, donc j'en mets un peu partout. Du coup j'ai ma coloc qui me dit mais ça sent encore la cannelle là dans ce que t'as fait, et donc du coup il y a un peu l'épice chai qui revient dans pas mal de plats.
Tu fais avec ce que t'as sous la main.
Exactement,
quoi.
On fait avec ce qu'on a.
Est-ce que t'as retrouvé des trucs bizarres? C'est un peu le moment que tout le monde range ses placards. Et toi, qu'est-ce que t'as retrouvé tout au fond?
Alors, j'ai retrouvé au fond du bac du frigo. Mais en fait, c'est même pas moi qui l'ai retrouvé, justement, c'est ma colocataire qui souvent retrouve des choses bizarres que je laisse à l'abandon. C'est un peu ma spécialité. C'était avant le confinement et je l'ai toujours laissé. C'était un peu comme un acte manqué où j'ai laissé ce bocal. Et je lui ai redemandé ce que c'était parce que j'étais toujours pas allée voir au fond de mon frigo ce que c'était. Et c'était en fait de la rhubarbe que j'avais fait dégorger dans du sucre. Ça a tenu des mois. Et en fait, bon là, j'ai ouvert le bocal et c'est complètement moisi. Et en fait, c'était de la rhubarbe pour faire une boisson qui s'appelle le shrub, qui est une boisson qu'utilise pas mal les bartenders. Base donc de fruits, de vinaigre et d'eau pétillante. Et c'est vraiment délicieux.
Là, c'est raté.
Là, pour le coup, je peux plus m'en servir. Là, ça va pas.
Et t'as quoi d'autre dans ton frigo en ce moment?
Alors, les essentiels, c'est... En fait, j'ai pas mal de condiments et beaucoup de moutarde. Je pense que j'ai à peu près 6 pots de moutarde, entre de la moutarde en grain, de la moutarde à l'estragon. C'est une passion commune avec aussi ma colocataire. On adore ça. Et ça sert, c'est assez pratique en confinement, parce qu'en fait, quand on veut faire des vinaigrettes, quand on veut assaisonner des choses assez simplement, je trouve que la moutarde, ça permet de faire des petits switches dans des sauces qui sont assez intéressants. J'ai du jus de citron toujours en bouteille. conseil. J'avoue, c'est ma petite flemme. C'est de presser des citrons à la maison. Donc, j'ai du jus de citron bio en bouteille. J'ai de la pâte de curry.
Et en frais,
c'est marrant, c'est que j'ai un tout petit frigo. Donc, c'est le problème des cuisines parisiennes. Donc, mon balcon est devenu un garde-manger. Je mets mes légumes sur mon balcon. J'ai plein de légumes frais. J'ai des poireaux. J'ai de la courge, de la salade, des endives. Tout là, les petits légumes de printemps aussi qui arrivent. J'ai de l'ail. Et ça fait du bien aussi de manger ce genre de choses. Et c'est chouette de pouvoir avoir des légumes qui viennent d'un maraîcher qui est à une heure de Paris, qui s'appelle Xavier, qui a une ferme qui s'appelle Les Limons de la Toulotte et qui travaille super bien. Donc ça a un peu égayé notre quotidien la semaine dernière.
Est-ce que tu cuisines beaucoup en ce moment ?
Oui, beaucoup, parce que j'utilise de toute façon jamais beaucoup de choses transformées. Donc on est obligé, quand on a des légumes, de cuisiner un minimum. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que je m'aperçois que je fais des choses très simples et que j'aime bien retrouver aussi le produit brut, mais rien que le plaisir de manger, d'avoir le temps le matin, parce que voilà, dans nos vies parisiennes, souvent on est tout le temps en train de courir, on va prendre le petit déj à 100 à l'heure, on va pas prendre le temps de se poser au déjeuner, etc. Et en fait, je retrouve vraiment le plaisir de, c'est bête, mais le matin, c'est prendre le temps d'éplucher un pamplemousse et de le manger. C'est d'habitude, je prends pas le temps dans la vie en général, quoi. Et le prendre le temps de redécouvrir certains produits bruts et de les cuisiner hyper simplement, je trouve ça très agréable. Et depuis le début du confinement, en fait, j'ai un peu l'impression de réapprendre à manger en prenant mon temps, et pas forcément en faisant des recettes très compliquées, mais en faisant des associations simples et en profitant, en mangeant par exemple un poireau. Là, il y a les jeunes poireaux qui sont super bons en ce moment. Manger des poireaux qui sortaient de la terre la semaine dernière de chez Xavier, c'était magnifique, avec une vinaigrette toute simple, ça fonctionne super bien, quoi.
Oui, puis cuisiner pour toi, pas pour les autres, c'est rare, tu le fais peu.
Oui, on le fait peu, et puis c'est souvent les cordonniers les plus mal chaussés, et c'est assez vrai, ça se confirme pas mal en cuisine, hein. Cuisiniers en général le week-end vont plus au restaurant et vont plus manger dehors, et là en fait on réapprend à bien se nourrir et aussi à se rappeler de ce qu'on aime vraiment, en fait. Je trouve ça assez chouette.
Et est-ce que tu cuisines pour des initiatives ?
Je cuisine une fois par semaine, environ une à deux fois par semaine. C'est très bien organisé. Il y a eu un super mouvement des chefs qui se sont mobilisés pour venir en aide aux hôpitaux et puis aussi aux associations, parce qu'on en parle moins. Mais il y a beaucoup d'associations qui sont dans le besoin, qui s'occupent des sans-abri, des toxicomanes, etc. Et puis ils se sont retrouvés sans rien parce que tout a fermé. Donc en fait, ils pouvaient plus avoir de dons. Donc il y a pas mal d'associations qui se sont mobilisés, je pense à Hello Ernest, à J'ai besoin d'eux, et qui ont réussi à avoir des dons de fournisseurs comme Terroir d'Avenir. Moi, je travaille actuellement avec Justin de la boutique Elsa et Justin, qui est dans le 10e, et Justin a réussi à récupérer des légumes de Tomato & Co. Moi, j'ai réussi à avoir des légumes aussi du maraîcher de Xavier Finder, qui est au Limon de la Toulotte. Et je trouve que c'est intéressant de voir que même les producteurs, les plus petits, etc., ont proposé tout de suite, assez rapidement, de nous donner des choses pour qu'on puisse cuisiner, et que ça va toujours dans la logique qu'on a d'habitude, nous chefs, de travailler avec ces gens-là, avec des artisans, et on s'aperçoit que dans ces temps un peu difficiles, les gens donnent, et il y a une vraie solidarité, donc ça fait du bien aussi, puis ça fait du bien de pouvoir nous, à notre petite échelle, relayer ça et nourrir aussi les gens simplement. C'est parfois on oublie un peu ça aussi, je pense, dans nos restaurants, où là on essaye de pousser un niveau de cuisine, de trouver une nouvelle technique, une nouvelle manière de faire. On le voit aussi pas mal, je trouve, sur les réseaux sociaux, où les gens essaient de trouver la nouvelle recette, de trouver des choses qui égayent le quotidien. Mais je trouve que ce qui est vraiment essentiel là-dedans, c'est qu'on se rappelle en fait que notre acte premier de cuisinier, c'est de nourrir, en fait. Et là, c'est vraiment ce qu'on fait en ce moment, c'est essayer de traiter les produits comme on peut, et puis de les redistribuer à un maximum de personnes à qui ça va offrir un moment de réconfort. Et moi, je pense à ça quand je cuisine, là, en ce moment. Ça reste assez symbolique, mais ça nous rappelle aussi les fondements de notre profession aussi, que c'est intéressant.
Et ça permet de garder le lien avec ton... Enfin, même si t'étais plus dans un poste actuellement, est-ce que ça te permet de garder le lien avec ton métier et de pas le perdre, enfin, voilà.
Oui, complètement. c'est permettre de le faire autrement aussi, c'est ça qui est intéressant, je trouve. C'est dire que faire à manger, on peut le faire des multiples manières, et que c'est aussi un acte essentiel, et que là on se pose quand même la question de revenir à l'essentiel, et que l'acte de cuisiner, il est assez beau, et que c'est, on se retourne faire des choses comme ça. Et du coup, pour moi, c'est assez aussi réconfortant de me dire que je fais un métier qui sert et qui est utile. Et j'espère que ça va faire aussi comprendre aux gens que ces choses-là, c'est des métiers qui sont importants et qu'il faut conserver, comme les métiers de soins, comme les caissières, comme les éboueurs. Voilà, les gens qui font le quotidien, qui permettent de faire en sorte que la société fonctionne. Et aussi, je pense, un signe qu'il faudra changer des choses après le confinement, quoi.
Est-ce que tu en profites pour faire des essais de cuisine quand t'es chez toi?
Alors, j'en profite pas vraiment. Enfin, pas pour faire des essais de cuisine, en tout cas. J'ai fait du pain récemment parce que j'ai des copains qui m'ont donné du levain. Mes copains du restaurant Candide, Alessandro et Camille. En fait, j'ai trouvé ça hyper drôle parce que, en fait, c'est un peu comme un Tamagotchi. Je trouve ça assez drôle, le levain, parce que c'est, on doit le...
Faut le nourrir,
faut s'en occuper, faut le mettre au chaud, au froid, quand on doit pas s'en servir. Voilà. Donc, pareil, j'ai pensé à ça. En fait, j'ai des plantes vertes à la maison dans mon appartement et c'est la première fois que j'observe mes plantes vertes, quel point on est occupé dans la journée, mais j'observe mes plantes vertes et leur position en fonction du soleil en fonction des heures de la journée. Et en fait, pareil, on revient à des choses où on prend le temps d'observer des choses un peu
primaires,
mais où on observe la vie, en fait. Et c'est ça, le levain, c'est une levure qui vit, quoi. Donc, je me suis un peu prise au jeu et j'ai fait des... Mais comme j'ai une petite cuisine avec un tout petit four, le pain, c'est un peu compliqué. Enfin, le pain, faire un vrai pain en levain. Donc, j'ai fait un peu des sortes de petits pains qui ressemblent à des muffins anglais. Et j'ai été coachée, voilà, par plusieurs amis qui m'ont dit, mais alors, attends, il faut laisser du repos. Si ton levain, il est trop acide, il faut mettre du miel. Enfin, voilà, il y a eu pas mal de techniques. Je pense que je suis vraiment à la base et je tâtonne et je pense pas que je vais devenir une grande boulangère. Mais c'était assez intéressant de faire des essais là-dessus. Et sinon, non, je trouve qu'en fait, moi, pour moi, la période, elle est plus propice à l'introspection un peu intérieure et à se nourrir aussi d'autres choses que de la cuisine. Je trouve que si c'est un métier où on est tout le temps, on a souvent la tête dans le travail, on n'a pas souvent le temps de s'arrêter. Et pour moi, c'est un moment, ça permet aussi de s'arrêter, de prendre le temps de lire d'autres choses que des livres de cuisine, de voir des films, et c'est des choses qui seront très enrichissantes pour après, je pense, sur la créativité, etc.
Donc tu te nourris comment en regardant? Tu m'as parlé d'un film notamment.
Oui, j'ai un film. J'ai repensé à un film qui est un peu un de mes films. Je sais pas, je pense qu'on a tous un peu nos films. Les choses qui nous ont construit, les livres qui nous ont marqués, etc. Et c'est un film japonais que j'adore, dont je parle souvent, qui s'appelle Still Walking de Hirokazu Koreeda, qui raconte une journée au Japon, à Yokohama. Et en fait, c'est une réunion de famille. Cette journée, elle est ponctuée par la préparation de repas et des repas en eux-mêmes. Et en fait, pour moi, ça symbolise un peu aussi la culture japonaise qui sacrifie aussi la gastronomie. Et il y a des merveilleux moments. C'est vraiment un film très poétique qui est assez beau et j'ai commencé à le revoir et en fait il commence vraiment par une scène entre une mère et sa fille et où elle parle de radis. Je vais vous lire un passage, enfin le dialogue, et je trouve le dialogue est assez génial. Elle commence comme ça et c'est vraiment la première réplique du film et elle dit « Les radis blancs sont géniaux ». Et la fille répond « Et les patates ?»« Oh bah ça dépend du tour de main. » »« Et les radis blancs ça se fait bouillir, sauter, mais rien craper c'est délicieux. » Et la fille répond « Mais les radis blancs ça se fait pas sauter. » Et la mère répond « Mais si. » Et elle dit « Bah alors on les blanchit alors. » Ça leur enlève leur acreté, on les mélange avec des carottes, on les fait sauter avec de l'huile de sésame. Ah, mais bien sûr! Et la mère dit, mais prends des notes, tu vas tout oublier. Bah, inutile, j'en ferai jamais. J'ai un mari qui est complètement insensible aux petits plats. Il ne connaît que le self. Bah alors pourquoi tu demandes? Bah pour plaire à ma petite maman. Et après le dialogue continue encore un peu comme ça, mais je trouve ça assez génial de voir ce moment de cuisine. Et en fait ça continue tout le film comme ça et en fait ça parle de nouilles froides, de porc servi avec des échalotes et des fèves. Ils mangent aussi des sushis, du thé, ils boivent du thé froid et voilà. Et tout au long du film ils sont toujours en train de manger et je trouve ça assez génial.
C'est magique, ouais. Tout ce qui passe dans un dialogue de cuisine, on peut dire.
Tout à fait.
Et t'en profites pour écouter de la musique aussi quand tu cuisines?
J'écoute pas mal la radio et aussi je me suis trouvé une âme un peu poétique quand je commençais à faire du pain l'autre jour et je me suis mis à écouter du Chopin et je trouvais que c'était assez beau comme moment. Donc voilà, si je peux, je suis pas très musique classique, je connais très mal, mais là je me suis dit que peut-être que faire du pain et écouter Chopin c'était une manière de venir à la musique classique. classique.
Ça, ça rime en plus, pain et Chopin.
Pain et Chopin, ça va très bien ensemble.
Et le dernier livre de cuisine que tu as ouvert ?
Alors, le dernier livre de cuisine que j'ai ouvert, c'est le livre de Rose Bécry, bizarrement, parce que c'est pas un livre de cuisine de grande gastronomie. Pour moi, c'est, ça s'appelle Breakfast, Lunch and Tea.
Ouais, le vert. Avec la couverture
le vert, qui est très beau. Ouais. Et c'était un de mes premiers livres que j'ai eu, un de mes premiers livres de cuisine. Et en fait, c'est marrant parce que j'y reviens toujours. Et en fait, c'est des recettes du quotidien, quoi. C'est des recettes de scones pour le petit-déj, de tartes pour le déjeuner du dimanche, de salades. Et c'est vraiment pour moi un peu la cuisine du quotidien, quoi.
La patate tarte est trop bonne. Tout est...
C'est exactement ça.
Tout est réussi.
C'est vraiment exactement ça. Ouais.
Et ton compte Instagram favori du moment ?
Alors, il faut avouer que je ne suis pas une grande Instagrammeuse. Je vais sur Instagram, mais que voilà, je ne suis pas non plus tous les comptes Instagram qui ont beaucoup de followers, voilà, etc. Mais j'ai un ami qui m'a conseillé le live de René Redzepi, où il parlait vraiment de ses prises et décisions vis-à-vis de Noma. Visiblement, il va créer un nouveau Noma. Après le Noma 2.0, il y aura un Noma 3.0. Et j'ai trouvé ça assez intéressant, ce qu'il disait sur ce qu'il voulait faire et le fait que ben il faudrait revoir notre vision du restaurant et la manière dont envisager la cuisine du futur et ce qu'il disait sur le fait que ben il allait baisser ses prix visiblement, qu'il allait essayer de s'adresser davantage aux Danois au lieu de s'intéresser qu'à une population de touristes qui était prêt à mettre $300 dans 300 ou voire plus dans un menu. Et je trouve ça bien aussi comme revirement et de s'adapter à cette crise, quoi. Je pense que ça va aussi changer pas mal de choses. Et comme René Redzepi est quand même quelqu'un d'assez influent dans le métier, c'est assez intéressant de voir ce qu'il dit.
Et j'allais te demander si toi, tu sens que ça va changer quelque chose dans ta cuisine, dans ta façon d'aborder les choses.
Je pense que forcément, ça va changer des choses. Pour ma part, je pense que c'est encore une manière de me dire qu'il va falloir faire beaucoup moins de compromis pour l'avenir, que le restaurant sera forcément un restaurant éco-responsable et que cette crise, pour moi, c'est aussi, enfin, c'est ce qu'on dit, hein, c'est comme un cri d'alarme, quoi, sur le fait que là aussi écologiquement il faut vraiment qu'on s'y mette tous et qu'on comprenne qu'il faut changer nos méthodes, il faut changer notre manière de travailler. Pour moi, c'est un truc un peu, c'est voilà, il faut recréer un système beaucoup plus vertueux pour tout le monde, quoi, pour les producteurs, pour les chefs, pour les consommateurs aussi. Je pense que nous, on a un rôle énorme à jouer sur l'éducation, sur le côté voilà, l'éducation des clients et de leur faire comprendre qu'il faut consommer autrement. Et moi, ça m'amène à essayer de penser au restaurant aussi qu'il faudra faire pour demain, quoi. Et il y a pas mal d'enjeux. Je pense que ça va être très difficile. C'est très difficile aussi pour beaucoup de restaurateurs actuellement. Et je pense que du coup, c'est aussi dans ce genre de crise qu'on se réinvente. Je pense que c'est aussi une manière de recommencer quelque part, pas à zéro, mais de reprendre les choses et d'essayer de réfléchir à comment on peut faire changer les choses aussi, quoi.
Complètement, ouais. Enfin, toi, c'était une réflexion que tu avais déjà amorcée, mais ça permet d'aller dans cette direction, de prendre le temps de réfléchir et de s'introspecter, je ne sais pas si on peut dire, là-dessus. Fin...
Oui, tout à fait. Après, c'est introspecter, mais c'est aussi réfléchir à comment... je trouve que c'est important de se dire que... Voilà, je trouve que dans les chefs, on pense encore trop de manière individuelle et qu'il y a vraiment un truc à faire sur le côté aussi, oui. Je pense que c'est important qu'on communique plus entre nous, qu'il y ait plus de cohésion, etc. On a vu une super cohésion, là, je trouve, depuis le confinement. Les chefs ont l'air de quand même beaucoup communiquer sur leurs difficultés personnelles, leurs difficultés de gérer cette crise, là, interne. Je trouvais ça assez beau. Il y a eu une communauté qui s'est créée, enfin, qui existe déjà, mais qui, voilà, des gens ont eu l'air de se serrer les coudes. Et je pense que ça passe aussi par là, quoi. Ça passe sur une communication entre les chefs, sur comment on fait pour s'organiser, au niveau de la logistique, comment on fait pour travailler davantage en direct avec davantage de producteurs, aider les producteurs, aider les artisans. Et ça passe que par une communication et ça passe que par le fait de s'ouvrir et d'aller voir ce que font les autres, de comprendre comment font les autres, et ça passe pas forcément par justement des labels, des communautés, ça passe par un dialogue assez simple finalement.
Et cette crise montre que tout le monde prend conscience, faudra que ça continue, c'est ça
tout à fait, faudra que ça continue, ouais, c'est ça.
Plus frivole, ton premier resto post-confinement?
Je pense que ce serait Sushi Bay, parce que j'ai vraiment En fait, je mange très peu de protéines depuis que je suis confinée à Paris. C'est pas si facile de trouver du bon poisson, de la bonne viande. Donc moi, je préfère presque ne pas en manger. Donc en fait, je rêve que d'un truc, c'est d'une espèce de sashimi de poisson cru. Et voilà. Et je pense que Sushi Bay, c'est un peu mon restaurant préféré pour manger du super bon poisson. Donc ce serait Sushi Bay, je pense. Et après, en fait, j'ai plus envie d'une longue soirée d'été. Je sais que je vais passer mon anniversaire en confinement, donc j'aurais plus envie d'une longue soirée d'été à boire du vin avec des amis dans une maison au bord de la mer qu'un réel restaurant à Paris collé à plein de gens. Voilà, j'ai plus envie d'un truc, comme je suis confinée dans mon appartement, j'ai plus envie de grand air et de passer une super soirée au bord de la mer avec des copains.
Dernière question traditionnelle du podcast que j'ai adaptée au confinement, ta recette fond de placard friendly.
Elle va aller un peu dans un autre sens que le fond de placard, puisqu'en fait, j'ai quand même des produits frais. Et en fait, j'ai fait ça l'autre jour, poignée de petits pois. J'avais émincé quelques poireaux nouveaux, de l'ail, qui est en fait un ail nouveau. Ça ressemble aussi un peu au poireau, mais c'est vraiment tout pour moi le plus symbolique du printemps. Et j'avais jeté une poignée de coriandre qui traînait dans mon frigo, qui était un peu fatiguée, comme on dit. Je les avais cuits dans un fond d'eau avec de l'huile d'olive et du sel. Et ça faisait un peu comme un minestrone de légumes. Je voulais le manger normalement comme des légumes, comme si j'avais fait un peu une poêlée de légumes. Et en fait, je goûte le jus et je me dis, oh, mais le jus est super bon. Et en fait, je l'ai mangé comme une soupe, comme un peu un minestrone de légumes, quoi. Et
c'est... T'as laissé le bouillon.
Et ouais, exactement, j'ai bu tout le bouillon. Et c'était trop bon.
Et t'as laissé les légumes à côté.
non, j'ai tout mangé ensemble. Non, c'était super bon. Et voilà, pour moi, c'est un peu... arriver à manger du printemps dans l'assiette, quoi. Donc,
merci Manon.
Ben, merci à toi Julie.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de la série Les Confineries. Pour en savoir plus sur Manon Fleury, vous pouvez écouter l'épisode d'Apoil qui lui est dédié et aussi la suivre sur son Instagram. Pour retrouver tous les anciens épisodes, rendez-vous sur votre appli podcast préféré ou sur le site apoil-lepodcast.com. Vous pouvez également suivre Apoil sur Instagram, sur le compte Apoil Podcast et participer au challenge lancé à l'occasion de la sortie des confineries en partageant vos photos avec le hashtag indispensable au pluriel fond de placard challenge. À très vite pour de nouvelles confineries.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.